La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et c'est l'heure d'Esprit Libre à 8h42 sur Radio Classique. L'Esprit Libre avec Marc Lambron de l'Académie Française et que vous retrouvez sur cette antenne tous les jours dans sa rubrique Et si on parlait français à 7h20. Et Nathalie Saint-Cricq, pour la première fois éditorialiste politique sur France 2 et qui publie un roman inspiré de l'histoire vraie d'un faux résistant qui a failli passer à la postérité en manquant d'être enterré au Mont-Valérien. On en parlera dans un instant. Bonjour, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Le retour de l'étoile jaune sur le costume de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, l'apparition de l'étoile bleue de David dans plusieurs quartiers de la région parisienne. Ces résurgences d'un autre âge vous surprennent-elles ?
Madame ?
Surprendre, non, parce qu'on guette à chaque fois qu'il y a un conflit, ou international, ou un conflit, ce genre de choses se reproduit. La forme de cette étoile bleue me surprend. Et j'en suis évidemment, comme tout le monde, absolument navré, parce que on a l'impression que sous toutes ces formes, que ce soit depuis la nuit des temps, depuis le Moyen Âge, il y a une cible systématique qui est les Juifs, comme si conflit en Israël était exactement égal avec le peuple juif, et que c'est même pas de l'importation de ce conflit, comme certains disent, c'est pire que ça. C'est-à-dire que d'abord, on ne sait pas d'où ça vient, on peut faire plein d'hypothèses, et ensuite, on a l'impression que systématiquement, c'est le juif qui revient comme cible dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou même quand les choses vont bien. Et donc, je trouve ça. Je vais pas me joindre au concert des gens qui le déplorent. Je vais me joindre au concert des gens qui disent que c'est pas aux Juifs de régler ça, et que c'est tout à l'heure le rabbin Corsia disait que ça devait être grande cause nationale. Je sais pas si on doit faire des choses comme ça. En tout cas, dire aux goy ou aux non-juifs plus exactement de se bouger, c'est-à-dire qu'en gros c'est pas le problème de la communauté juive, le problème des juifs c'est le nôtre. Voilà. C'est
tout le grand rabbin qui disait on n'est pas sûr d'ailleurs de la traçabilité. De ces étoiles.
Il peut y avoir des croix gammées. Enfin, je veux pas faire l'historique de toutes les graffitis. Simone Veil, quand elle avait pendant le débat sur l'avortement, avait des croix gammées dans son immeuble. Il y a effectivement toutes les façons d'exprimer un antisémitisme en faisant une référence directe à la guerre de 40, à l'hitlérisme et au nazisme. Ça donne des croix gammées, des SS. Mais bon, peu importe, ce qui compte, c'est la façon dont c'est vécu par les gens.
Marc Lambron.
Alors, sémiologie de l'étoile. Si l'ambassadeur d'Israël à l'ONU arbore une étoile jaune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait, comme l'a fait tout de suite Netanyahou et le président Herzog, une relation avec l'Holocauste. Qui me semble pertinente, si j'ose dire presque techniquement, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est en réalité qu'on a lâché des commandos sur Israël. Et c'est exactement ce qui s'est passé à partir de l'été 41. Ça s'appelait des Einsatzgruppen, qui étaient des SS durcis qui, notamment en Ukraine, ont perpétré des massacres. Donc là, on a vu des Einsatzgruppen avec ULM et moto. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les étoiles en France. À mon avis, dans la tête des auteurs, c'est une sorte de nuit de cristal psychique. C'est-à-dire une... ça me rappelle absolument les bandes qui ont été filmées en 38, où on voit sur les devantures, sur les magasins, précisément une stigmatisation ou une désignation par l'étoile.
Donc d'après vous, c'est pour signaler qu'un juif habite là.
Je pense que c'est un fléchage de possibles assassinats et qu'il ne faut pas faire de l'angélisme sur ces signes. Oui, alors après, c'est un outrage à la République. C'est-à-dire que le pacte républicain, c'est la citoyenneté première, la confession est seconde. Et une dernière chose, c'est qu'on dit, enfin on compte, 860 actes antisémites de cette nature. Je serais quand même étonné si les pouvoirs publics n'avaient pas une idée, au moins, dans certains cas, de qui sont les auteurs. Or, ces auteurs ne sont pas nommés pour l'instant. Et je me demande s'il n'y a pas là une mesure de, comment dire, de modération. En tout cas, une façon de ne pas jeter de l'huile sur le feu.
On en saura peut-être davantage avec les caméras de vidéosurveillance.
Oui, absolument, ils vont le savoir. Mais avant de balancer des hypothèses dans la nature, comme disait Marc, et risquer d'avoir...
Un retour de bâton.
Oui, mais c'est pas on fait pas de vague. Hein, c'est on le dira, on saura, mais quand on aura des choses claires et nettes.
Ce qui me semble, soit dit, je ne sais pas dans quelle proportion, mais sur les réseaux sociaux en ce moment, vous commencez à avoir des Français musulmans qui disent « Hamas nous déshonore » et « si vous n'aimez pas la France, quittez-la ». J'ai vu ça, ce que dit habituellement le RN. Et oui, je ne veux pas faire une symétrie, mais enfin, il y a évidemment une inquiétude, une angoisse aujourd'hui à être juif en France, c'est évident, ou en Angleterre. Mais il y a aussi un malaise à être compromis comme musulman par les agissements des ultras. Et je ne veux pas croire qu'il y ait 6 millions de salafistes en France.
Non, et ça serait idéal, effectivement, ce qui avait déjà été soulevé au moment du 11 septembre, c'était C'est-à-dire qu'il y a une espèce de gigantesque mouvement d'opinion avec des non-juifs, avec des musulmans qui disent « not in their name ». C'est-à-dire le côté « ne nous assimilez pas à ces gens-là », ce qui permettrait, en fait, je vous fais pas le numéro du vivre ensemble, mais que chacun se démarque. C'est-à-dire que nous, ça nous arrive de défiler en disant « on veut pas entendre de ça », c'est arrivé dans plusieurs. Et le « c'est pas nous, c'est pas ça », c'est un dévoiement absolu de l'islam. On attend cette mobilisation.
Il y a eu hier à l'Assemblée nationale un début, par rapport à ce que vous venez de dire, Nathalie Saint-Cricq, début de solidarité unanime adressé à l'Assemblée nationale et par l'ensemble des députés à des proches et parents d'otages détenus par le Hamas en Israël. Ils assistaient à une séance de l'Assemblée nationale. Il était temps d'un peu d'unanimité.
Oui, il était temps. Il était dans l'unanimité dans ce cas-là est quand même relativement normale, mais elle devrait s'accompagner d'une unanimité sur parce que pleurer tous ensemble sur des otages ou des parents d'otages, c'est facile. Mmh. Essayer de nommer les choses, de savoir pourquoi ça a été fait, essayer de savoir comment on doit défendre, quelles sont les idéologies qui sont criminelles, c'est quelque chose qui va un peu plus loin. Et ça, franchement, on n'y a pas eu droit depuis le début.
Nathalie Saint-Cricq, vous qui décryptez la politique sur France 2 depuis des années, il y aura un avant et un après pour la France insoumise et l'extrême gauche, un avant et un après le 7 octobre.
Moi, j'en suis persuadée. Alors, d'aucuns disent que Jean-Luc Mélenchon a joué remarquablement bien en clivant une fois de plus, que on se souviendra et qu'il espère que dans 6 mois, si la guerre dure longtemps, s'il y a beaucoup de victimes civiles à Gaza, il dira, regardez, je vous l'avais bien dit. Moi, je suis persuadée que si on accumule tout ce qu'il a pu faire. Tout ce qui a pu se passer à la France Insoumise depuis 2-3 ans, c'est-à-dire une espèce de perte de nerfs quand il y a la perquisition, les histoires financières de Madame Chikirou, l'affaire Quatennens, il y a un moment donné, en plus, il y a un moment donné où l'indignité est dangereuse. Quand on parle de Yael Braun-Pivet en disant qu'elle a excité, elle a poussé au massacre. Presque le pire, c'est elle pousse au massacre, ça peut la désigner, c'est ce qu'elle dit, comme cible. Donc si les parlementaires, si les hommes politiques commencent à désigner tel et tel, de manière à ce qu'éventuellement dans la rue, on les attaque, ou qu'on les traîne dans la boue, ou qu'on les menace, ce qui existe déjà, franchement, là, c'est pas possible.
Là, c'est la façon dont un phénomène international est givarisé, si j'ose dire, sur la scène politique intérieure française.
Givarisé.
Oui, c'est-à-dire on réduit quelque chose qui on va du global au local, comme les givarots réduisent les têtes, n'est-ce pas?
Alors, attention, ne stigmatisez pas les Indiens givarots.
C'est l'Académie française qui parle.
Alors, mais ce qui se passe là, c'est que toute tragédie historique suscite invariablement des réactions timorées, parce qu'il y a de la peur en France. Et en même temps, des actes de solidarité proclamés. Alors, politiquement, oui, il y a un sous-texte, c'est-à-dire, je pense, baisse de Mélenchon, mais aussi montée du RN, parce que, qui, de façon subliminale, veut mettre un signe égal entre Hamas et immigration. C'est ça qui va se jouer, je pense, comme bandeau dans les temps qui viennent. Et on est quand même dans ce paradoxe aussi, où des pogroms en Israël font le jeu de l'extrême droite en France.
Je voudrais qu'on parle de résistance, puisqu'il y a eu des polémiques sur la notion de résistance avec Daniel Obono, qui a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. On se chamaille et on polémique à juste titre sur le choix des mots. La résistance, les résistants peuvent pratiquer le terrorisme, mais les terroristes, tous les terroristes ne sont pas des résistants. Je résumerai comme ça les choses en deux mots. Je demande à l'académicien, mais très vite, quelle est votre conception du résistant? Est-ce que le Hamas est résistant? Non, bien sûr.
Ma conception du résistant, je suis en train de lire la biographie de Gaulle par Jean-Luc Barré, donc là on a quelques exemples. Et ben pour moi, c'est quelqu'un qui a un solide surmoi, qui est façonné autour de valeurs idéales, qui peuvent être la nation, la liberté, et que les circonstances portent à incarner ces valeurs dans son action, fût-ce au péril de sa vie, c'est ça un résistant pour moi.
Et pour vous, Nathalie Saint-Cricq, j'ai préparé cette transition, elle vient de loin.
elle est remarquable.
Mais on est dans le sujet, vous publiez L'ombre d'un traître. C'est l'histoire vraie, mais que vous avez transformée en roman. C'est l'histoire vraie d'un homme qui devait faire son entrée au Mont Valérien, qui est un peu le panthéon des gens qui ont participé à la libération de la France, à la résistance, et qui est retiré de la liste au dernier moment parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il n'était pas du tout résistant. Et là, je vous laisse la parole.
Alors, on ne peut pas imaginer qu'il y a eu un complot derrière ça, il y a eu de la négligence. Mais l'affaire symbolique est absolument énorme, parce qu'effectivement, on tire au sort plusieurs personnes qui doivent incarner un peu de tout, c'est-à-dire
ça se passe en 1960.
Ça se passe en, alors le tirage au sort est fait en 45. Dès que De Gaulle arrive, il veut avoir son monument pour que faire pièce aux communistes et pour pas que les communistes raptent la mémoire. Donc il demande à Freinet de lui prendre, de lui faire une sélection, si j'ose dire, ce qui est assez honnête, des gens débarquement Provence, des coloniaux, des gradés, des non gradés, des jeunes, des, tous les gens qui illustrent la France combattante. Il a deux raisons. Un, rester dans les esprits, le but de beaucoup de politiques ou de dans l'histoire, et deux, si vous voulez, de réconcilier la France, en gros, en faisant croire aux Français qu'ils ont tous été résistants. Je précise juste 400 000, puisque vous me demandiez, 400 000 sur 41 millions de personnes, c'est pas énormément, mais on doit réconcilier la France. Donc, on tire au sort, ce monsieur rentre, puis il y a des lettres qui arrivent en prêt, il y a deux jours de cérémonie formidable, 10 novembre, 11 novembre, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de restaurant, tout est fermé. On sonne le glas, c'est une espèce de journée défilée au, à l'Arc de Triomphe, Invalide, Arc de Triomphe, Mont-Valérien. Puis il y a des lettres qui arrivent après, puis ils disent, je ne sais pas comment vous les avez trouvées celui-là, parce que celui-là c'est une histoire plus compliquée.
Parce qu'ils sont 15 ou 16, et parmi
ils sont
15, eux, il y a la brebis galeuse.
La brebis galeuse qui n'avait pas été imaginée, et alors là, c'est panique, puisque... Le monument qui n'est pas construit en 45 sera construit en 60 et De Gaulle doit inaugurer le 18 juin 60 son monument et là panique le 17. On a certes fait tout ce qui était administratif mais on a oublié de sortir le corps. Et à partir de là s'ensuit quelque chose d'assez rocambolesque voire abracadabrantesque qui est extrêmement étrange. Donc l'enquête a été faite et on change de corps. Et tout ça, c'est pas si simple, parce que quand même, le Mont-Valérien, c'est pas un territoire reculé de la République, et on cache ça, parce qu'on veut pas tomber sous le coup d'une accusation qui dit, regardez-moi ça, la résistance, ils font n'importe quoi, ils ont mélangé tout le monde.
Et vous l'avez transformé en roman, dont le héros est un certain Désiré, et qui va, à travers une enquête que vous avez faite dans la réalité, à travers les archives qui vous ont régalé, ce héros Désiré va découvrir, intrus parmi ces 15 du Mont Valérien. Bon, ça se lit comme un polar, Nathalie Saint-Cricq. Marc Lambron, romancier, homme de littérature, cette histoire vous inspire?
C'est une histoire d'usurpation, voire de trafic d'héroïsme. Alors, il y a eu des précédents esthétiques. Il y a un film, Un héros très discret, par exemple.
De Jean-François Degnaud. Le livre était
de... Le livre était de Degnaud. En Espagne, il y a eu un très bon livre, une enquête de Javier Cercas sur un personnage éminent du syndicalisme de gauche espagnole qui présidait l'amicale de Buchenwald, enfin qui avait toutes les auréolées de tout cela et dont il est apparu qu'il était un total imposteur. Je crois que ça s'appelle L'Imposteur, d'ailleurs, le roman de Javier Cercas. Donc oui, il y a des précédents écrits, mais le livre de Nathalie Saint-Cricq s'inscrit dans cette...
Mais lui, c'est un imposteur involontaire, c'est-à-dire qu'on l'a mis là, et puis on n'a pas été très regardant. Et puis on voulait tellement faire de la symbolique très vite pour réconcilier les Français qu'en fait...
Il y a des impostures involontaires et il y a des oublis obligeants. Mais bon, on va pas parler de François Mitterrand aujourd'hui.
Vous voulez parler de la guerre de 40, il nous faudrait la journée.
Bon. Un dernier mot, Nathalie Saint-Cricq, vous vous êtes plongée pour faire ce livre « L'ombre d'un traître » qui est paru à l'Observatoire, dans des archives, et en fait, vous vous êtes aperçu que les choses, ces archives vous attendaient, et que le livre était presque écrit.
Je me suis rendu compte que les archives françaises étaient formidables, comme les archives allemandes, mais pour le meilleur et pour le pire, les archives allemandes, je dirais, et qu'il y avait, effectivement, il y a même la photo de ce monsieur, il y a tout, il y a l'enveloppe de la lettre que sa femme a écrite au général de Gaulle. On est très méthodique et je pense surtout qu'il y a une nouvelle génération d'historiens qui n'est pas dans la logique du roman national de raconter n'importe quoi et qui souhaite la vérité sans pour autant être militant, mais qu'en gros, quand on pose des questions, les gens sont prêts aujourd'hui à ouvrir les dossiers. Peut-être pas sur tout, mais en tout cas sur la guerre.
Parfois, ça peut aller jusqu'au gag. Vous savez que pour détendre l'atmosphère, vous savez qu'en 1920, il y a eu une quête pour la veuve du soldat inconnu. Réfléchissez.
Marc Lambron, les boomers font de la résistance. Vous aviez prévu de nous parler du retour au cinéma de Scorsese, du retour des Stones, du retour des Beatles. On n'a plus le temps, mais vous le ferez la semaine prochaine.
Très bien.
Les boomers qui font de la résistance, c'est une autre forme de résistance et elle est heureuse puisqu'elle est culturelle. Nathalie Saint-Cricq publie donc L'ombre d'un traître. C'est paru à l'Observatoire. Je vous le recommande vivement. On est absolument ravis de vous avoir eu, Nathalie, aujourd'hui.
Moi, je suis ravie, même si j'ai pris le temps de parole de Marc.
C'est partagé ici. Marc était bien content de vous avoir pour compagne dans Esprit Libre.
Je la connais depuis les années de Sciences Po, ce qui nous rajeunit beaucoup.
Bon, arrêtez, on va parler de connivence dans les médias et on va encore se faire allumer.
Mais il n'est pas journaliste, c'est un académicien éternel.
Non, elle était d'un côté de la trottoir et moi de l'autre.
Bon, vous vous ferez des mamours en sortant.
Ravissante.
Je vous remercie. Dans un instant, la météo, le flash et Franck Ferrand.